Cette semaine, rencontre avec une légende, un amoureux du rock psychédélique qui a ruminé un album pendant 40 ans avant de lui donner vie grâce à un hypothétique héritage. C'est Charles de Ribeaupierre au micro de Steve.
C'est l'histoire d'un enfant du rock psychédélique des années 60-70 qui vagabonde de son Lausanne natale à Paris, Martigny et jusqu'à Bienne aujourd'hui et qui se retrouve à 70 ans avec un album nourri par 40 ans d'amour de la musique. C'est l'histoire de Charles de Ribeaupierre et de l'album Alpenstock Boudu Story qui vient enfin de sortir. Il est notre invité, bonjour.
Bonjour.
40 ans pour sortir un album, c'est énorme. Pourquoi si long ?
Parce que j'ai pas forcément cherché des producteurs, et est arrivé un héritage poursuit, et donc j'ai fait. Moi, je suis un petit peu bouddhiste. Ouais. Je me dis, si une chose doit arriver, elle arrive. Elle est arrivée. Ouais. Tard, mais elle est arrivée.
On est dans le rock psychédélique de la plus pure tradition, de Jefferson Airplane à Dire Straits, en passant par les Pink Floyd. Mais on reste dans les années 60-70, en termes de sonorité. Pourquoi cette période-là particulièrement ?
Parce qu'il y avait quand même des beaux instruments. Le Hammond B3, par exemple. Les guitares. Et puis surtout pas de boîte à rythme. Pas d'ordinateur. C'est quand même plus sympathique. Ouais. Par exemple, un exemple tout simple. Dans le morceau Bachelor, il y a un solo de flûte. Bien des groupes auraient fait un solo avec son flûte sur synthé. Mm-hmm. Moi, je préfère avoir un flûtiste qui vienne le faire.
Mais pourtant, vous avez joué quand même à travers votre carrière aussi sur pas mal de claviers qui, à l'époque, tentaient de reproduire certains vrais instruments. Et là, vous êtes revenu vraiment aux vrais instruments.
Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, le Hammond B3, on l'entend par ce moment. C'est vraiment un son extraordinaire.
Bah, qui nous plonge directement dans ces périodes-là.
Oui, mais pas que dans le pop. Dans le jazz aussi. Dans le B3 est utilisé par tout le monde. Petrucciani, par exemple.
Aujourd'hui, il y a quand même un renouveau du genre, du psychédélique, du rock progressif. Je pense à Brian Johnstown Massacre, Black Rebel Motorcycle Club. À quel point les nouvelles générations vous touchent, vous interpellent ?
Mais c'est-à-dire que dans le commercial actuel, tout le monde joue la même chose. Chacun peut chanter le morceau de l'autre, on ne voit pas la différence. Il n'y a pas de patte. Moi, j'aime quand, justement à cette époque, un groupe sortait un album, à la radio, on entendait un morceau, on savait tout de suite de quel groupe il s'agissait. On va pas confondre Pink Floyd avec Jet Rotul, on va pas confondre Zappa avec Dire Straits, on va pas confondre le Sgt. Pepper's des Beatles qui est sorti, ça fait une bombe. Je veux dire, c'était motivant.
Et c'était pas que les voix des musiciens, il y avait aussi des choix d'instruments propres. Ben, vous avez évoqué Dire Straits, je pense que leur guitare, elle est iconique.
Bah oui, deux notes, on sait que c'est lui. Là, moi, on peut me reconnaître, même si je suis pas un chanteur d'opéra.
Un peu à l'image de l'album In the Court of Crimson King de King Crimson, on sent une narration dans cet album. C'est la Boudu Story, donc, hein, l'histoire de Boudu. Comment on pourrait résumer cette histoire ?
Eh bien, ça commence dans le monde des esprits, où une nouvelle entité est appelée au bureau des karmas, et on lui dit qu'il aura un karma difficile à réaliser, une vie à ne rien faire, il sera fonctionnaire aux droits de l'homme.
Et ça... Donc c'est un esprit à qui on a attribué un travail de fonctionnaire ?
Oui, d'office, ne rien faire.
Et après, on suit son parcours ?
Oui, on suit ce monsieur qui ne fait rien. Mais je veux dire, c'est pas facile. Essayez de ne rien faire.
Il est très fort alors.
Ah bah oui, il passe comme ça dans un monde psychédélique, coloré. Ouais. Et lui, tout en noir, il le voit même pas. Il y a moi un morceau que j'adore particulièrement, c'est Mystical End, la fin de Boudu, avec un cœur féminin fabuleux. Et puis en plus, c'est drôle le texte.
À quel titre ?
Bah quand même Boudu, faut savoir que dans Boudu Story. Il descend dans les rues malfamées en même temps que le soleil descend à l'horizon pour se taper une pute tous deux. Et quand on arrive à Mystical End, il a trouvé le doux José, donc il change carrément de sexe. Et ce doux José l'amène à réfléchir un peu, et tout à coup, il rêve qu'à 5h du matin, Dieu l'appelle. Boudu, rampe comme le serpent des croyances bibliques pour assurer le troupeau égaré que son argent est bien placé pour le bénéfice du Vatican.
Ça, amen.
C'est le genre de phrase que j'aime bien. Et Boudu, finalement, il avec le retour paroissial, il part pour voir son doux José. Et comme tout bon fonctionnaire, il percute un panneau stop, il meurt. Il remonte dans le monde des esprits où il est chaleureusement félicité d'avoir réussi à ne rien faire. Voilà.
À quel point cet album parle des choses qui vous touchent ?
Eh bien, premièrement, les morceaux de Helsinki qui sont pas récents, je les avais fait en 75 à peu près. Moi, à l'époque, déjà, les réfugiés de l'Est nous félicitaient, les gauchistes nous engueulaient, parce que pour eux, le paradis, c'était l'URSS, ou Mao. Ouais, on a vu le résultat. Donc, ça, c'est un truc qui me touche particulièrement. Parce qu'il y a beaucoup de dictatures qui ont été formatées sur la gauche. Si un type est dictatorial de droite, c'est pas bien. Mais le résultat est le même.
Ça reste une dictature, quoi.
Voilà. Mais ça, je supporte pas. Ouais.
Et puis, c'est des choses qui sont encore très actuelles et qui ont encore cours aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle vous avez décidé de ressortir ce morceau des années 70 pour le remettre sur le devant de la scène. Parce qu'on répète les choses et ça ne change pas.
Hélas. Et puis, il y a le côté religion. Ça, c'est une chose que je n'arrive pas à comprendre. Comment un troupeau de moutons est d'accord de se laisser tondre par des gens qui disent qu'ils connaissent la vérité. Et quand il y en a trois qui connaissent la vérité, c'est la guerre. Donc, c'est affreux.
Qu'est-ce que ça vous fait d'avoir laissé mijoter cet album pendant 40 ans, de le sortir aujourd'hui et de voir que les thèmes, finalement, sont toujours les mêmes, les guerres sont toujours les mêmes, les questions politiques sont toujours les mêmes? Qu'est-ce que ça vous fait, ça?
Oui, ça, on sait que le monde n'a jamais changé. C'est l'armement qui change. Et ça ne sert à rien. Rien du tout. Ni aux uns, ni aux autres.
Il y a aussi une partie un peu plus psychédélique, on l'a dit, avec ce début sur la spiritualité, cette espèce d'esprit qui ensuite est envoyé sur Terre pour devenir un fonctionnaire. Boudu, donc, c'est la star de cet album. Dans ces cadres-là, on pense au psychédélisme, mais qui dit psychédélisme dit aussi LSD, peut-être, qui va avec. Est-ce que ça fait partie du décor dans cet album?
Ah ben, bien entendu. Si les gens n'ont pas compris le film Beatles, Yellow Submarine, ils n'ont rien compris à ce qui s'est fait. Tous ces groupes que vous avez cités, que je cite, ils étaient pétés comme des coins. De toute façon, Pink Floyd, sans LSD, ça n'a jamais été Pink Floyd. Et c'est beau, quand même. Les concerts de Pink Floyd, c'est quelque chose. Donc, je veux dire, alors, il y a une hypocrisie où les gens voyaient des artistes péter au LSD faire des concerts. Dans la salle, des gens péter au LSD et planer. Mais par contre, c'est pas bien, c'est de la drogue. Il faut savoir, ou on fait pas les concerts, ou on ferme son clapet.
Du coup, il faudrait prendre du LSD pour bien comprendre votre album.
Ça aiderait. Moi, ça m'a aidé, en tout cas.
Charles de Ribeaupierre, vous restez avec nous, on va poursuivre l'entretien donc après un premier extrait de cet album, Alpenstock Boudu Story. C'est le morceau phare du disque Boudu Story. Good day, gentlemen. Boudu Story, pierre angulaire de l'album Alpenstock, Boudu Story de Charles de Ribeaupierre, album qui a mis 40 ans à naître dans un univers psychédélique des grandes années du genre. Charles de Ribeaupierre est notre invité. Charles, pour donner vie à tout ça, vous êtes armé d'une solide équipe de musiciens et vous avez investi le Powerplay Studio près de Zurich. Racontez-nous cette aventure, ça commence par peut-être le choix de vos camarades de jeu.
Oui, mais c'est pas moi que les ai choisis, c'est le patron du studio qui a tout fait. C'est-à-dire que moi, j'avais un ami qui habite Zurich, qui connaissait le Powerplay. Comme j'avais les ronds pour le faire, il s'est approché du studio tout de suite. Et eux, ils ont trouvé des musiciens. Il a même fait plus, puisqu'on l'a enrôlé pour faire la voix spirituelle dans le monde spirituel, qui a appelé Boudu au bureau des karmas, par exemple. C'est lui. Non, il y a eu une ambiance au Powerplay studio que je recommande à tout le monde. C'était cool, on a rigolé. C'était à l'anglaise des bonnes années. On était en rond dans un studio vaste, avec un preneur de son très, très, très bon. Et puis, des fois, on discutait 20 minutes avant de faire ce truc.
Et du coup, vous êtes arrivé avec vos compositions, que vous avez, je sais pas, préenregistré, que les gens ont écouté,
Moi, on a fait une maquette. Alors, quand je suis arrivé, ils connaissaient. Mais comme toujours, dans un morceau, vous avez des différentes possibilités qu'on fait dans un morceau. Faut pas dire non, parce que c'est pas ça. On essaye. C'est bon, on garde. C'est pas bon, on garde pas, c'est tout. Et les mecs, c'est ce qu'ils aiment, eux. Ils sont contents de jouer ça.
Ils n'ont pas à devoir passer par des ordinateurs et des ordinateurs.
Oui, puis pas des mecs qui leur disent non, c'est trop compliqué. Là, ils peuvent y aller. Et ça leur plaît. Parce que combien de fois ils font des enregistrements de trucs qui leur plaisent pas. C'est pas une vie.
Quel est l'impact de leur travail à eux, de leur proposition artistique aux artistes ?
À l'arrangement. D'ailleurs, moi, sur les droits d'auteur, j'ai donné à chacun un pourcentage pour l'arrangement. Ils étaient étonnés, d'ailleurs. Mais on a travaillé, comment dirais-je, c'était comme un groupe.
Ouais.
Mais sans engueulade. Le genre de truc où ça avance.
J'ai été étonné quand même de ne pas voir d'anciens membres de vos anciennes formations. Hein, vous en avez eu plusieurs, je pense à Flight notamment, avec lequel vous avez tourné pendant 10 ans. Il y a eu vraiment plein d'autres groupes. Et je me demandais pourquoi certains membres de ces différents groupes ne pouvaient pas figurer sur ce disque. Vous n'avez pas cherché à les contacter plus que ça ?
Alors, pas du tout. Flight, ça s'est fini quand on conservait pas à linge. Très bien, on a fait 100 places de plus qu'il y avait de place. Bon, bref, c'est une époque géniale. De la scène, on voyait des chilhommes qui s'allumaient dans la salle. Et alors là, c'est très drôle, parce qu'il y avait les balcons où les gens plus sérieux allaient pour voir ça de haut. Mais la fumée monte.
Et du coup, les spectateurs qui voulaient un peu se préserver, ils ont participé comme tout le monde à la fête.
Ils planaient sans avoir payé. Hein. Mais Flight, le gros problème qu'on a eu, c'est qu'on n'a pas fait d'album, sinon. Puis après, ça, c'est vieux. Ça s'est fini en 78. Je sais même pas s'ils sont vivants encore. Et puis si on a fini une histoire, on a fini une histoire.
Arrive donc cet enregistrement. Le choix des instruments, évidemment, quand on veut coller à une époque, faut quand même sortir les machines de guerre, entre guillemets, les produits d'époque. Là, vous êtes allé chercher loin ou alors chacun est venu avec ce qu'il avait avec lui?
Ouais, bon, chacun est venu, c'est beaucoup. Le guitariste est venu avec 10 guitares. Mais dans le studio, il y a des guitares des années 60. Il y a tout. Le B3, ça passe en studio.
Je vous ai entendu parler de l'importance de l'âme dans une chanson, du feeling. Décrivez-nous l'âme de cet album.
Il y a un soupçon de politique, un soupçon de religion. Il y a un soupçon... un soupçon. Beaucoup de psychédélique, de l'humour. Parce que quand même, des moments donnés, on peut aussi rire.
Alpenstock, bout du story est né. Charles de Ribeaupierre, la suite, qu'est-ce que c'est?
La suite, c'est de préparer d'ici un ou deux mois des concerts, des petits au début pour se roser. Et j'espère, par la suite, un concert avec des décors. Et 2-3 gags visuels.
Restez dans le psychédélisme de l'époque, hein, qui aimait bien faire ça.
Oui, et puis je veux que les gens, à des moments, se décompressent et éclatent de rire.
On va terminer avec un message pour notre génération, notre temps. Vous qui avez ruminé pendant 40 ans pour nous parler avec cet album, qu'est-ce que vous auriez à nous dire? Je prends. Merci beaucoup, Charles de Ribeaupierre.
Mais pareil, hein.
Et si vous êtes amoureux donc, et peut-être nostalgique de la grande époque du rock psychédélique, l'album Alpenstock, Bout du Story est disponible depuis cet été. On se quitte avec un ultime extrait, c'est Buddhist Journey. Et un petit côté Dire Straits qui fait plaisir.